Les Gones.
Une émission sur Lyon.
Présentée par Thomas Lacombe
et toute sa bande.
Bonjour à tous, bienvenue chez Les Gones pour ce troisième numéro. Les Gones, c'est votre émission sur Lyon. Tous les 15 jours, nous vous tiendrons au courant de l'actualité locale, en jouant avec. Nous vous donnerons la bougeotte avec la rubrique sortie et nous mettrons en lumière une association lyonnaise. Cette semaine, nous recevons l'Antenne Lyonnaise, une association qui a pour vocation d'accueillir, soutenir et accompagner des jeunes victimes d'homophobie ou de transphobie familiale. Le Refuge. Et pour nous en parler, c'est sa responsable communication, Julie, qui a pris place derrière le micro. Bonjour Julie.
Bonjour Thomas.
Ainsi que son ancienne déléguée régionale, désormais bénévole au sein du pôle subvention de l'association. Bonjour Myriam.
Bonjour.
Et en face de vous, de drôles d'hurlus-berlus, mes gones. Dans l'argot lyonnais, les gones, ce sont des sales gosses. À Transistor, les gones, ce sont eux. Une gone qui, je le sais, vous a manqué, parce que pendant qu'elle pose ses questions à rallonge, vous avez largement le temps d'aller pisser, et dans une émission d'une heure, ce n'est pas négligeable. Tatiana.
Bonjour Thomas.
Un gone qui, un jour, après une pièce de théâtre, a trouvé qu'on lui avait vomi dans la bouche, c'est dire s'il avait aimé le spectacle. Florent.
Salut Thomas.
Une gone que ma mère trouve trop vulgaire quand elle vous parle de Lyon. Je vois vraiment pas pourquoi. C'est vrai qu'en deux chroniques, c'est-à-dire en à peine 5 minutes, elle nous a juste parlé 4 fois d'un mec qui en avait une toute petite, et elle nous a juste gratifié de 3 gueules de cul, de con, une badass, niquée, baisée, emmerdée bien profond. Le compte est bon, n'est-ce pas Marie?
Et ça va pas s'améliorer. Bonjour Thomas.
Hélas. Une gone qui a pour passion le fromage. Autant vous dire que c'est la seule dont on change systématiquement la bonnette du micro, Marie-Ève.
Oui, ça continue avec le fromage aujourd'hui. Bonjour Thomas.
Enfin, un gone, c'est des Marnais qui nous parle sport. Il en fait, même un peu trop, vu qu'il s'est ouvert l'arcade lors de son dernier match, Romain. Je lui prêterai ma voix tout à l'heure. Alors, je ne sais pas vous, mais je pense que c'est quand même la meilleure présentation. Je vous mets en valeur, hein, n'est-ce pas?
Absolument, Thomas, toujours.
Oui. Et alors, je vois effectivement nos invités, Julie et Myriam, qui me regardent avec des yeux ronds et se demandent chez qui elles sont tombées. Eh bien, chez les Gones. Et je n'arrête pas de le répéter. D'ailleurs, il est temps de commencer à s'amuser avec l'actualité. Actu donc, et je vous propose au menu chronique décalée et questions sur l'actualité locale. Et avant de parler de Lyon, je vous propose d'abord d'évoquer l'actualité nationale. Enfin, l'actualité nationale vue par deux gones, en l'occurrence Tatiana et Florent, qui, l'espace d'un jingle, changent de peau et avec leur personnage déluré, vont vous parler de ce qu'il se passe en France. Cette semaine, nos invités sont Clem et Sam, étudiants et, comme ils le disent eux-mêmes, engagés politiquement. Bonjour et bienvenue.
Salut à tous, moi c'est Clémentine. On m'appelle Clem depuis que j'ai 10 ans et je suis super contente d'être là. Super contente pour présenter avec Sam notre asso à Solidaire, cité solitaire, devient solidaire. Donc ouais, un peu comme vous, le refuge, on lutte activement pour la fin des OGM.
Ouais, carrément. Et notre asso, c'est un moyen de dire que ouais, tout va pas bien et que quand le gouvernement promet la transition énergétique, et ben nous, ça fait longtemps avec ces merdes qu'on a le transit hermétique. Ouais. Et c'est dégueulasse.
Ouais, enfin bon, je vous arrête, Sam, Clem, vous êtes conscient que le refuge n'a aucun rapport avec les OGM et puis les OGM n'ont aucun rapport avec la transition énergétique.
Non, hein. Mais il n'y a pas que ça, Nous, on veut pousser un coup de gueule. Ouais, aujourd'hui, on essaie de nous museler, de nous faire peur avec Ebola, mais avant, c'était avec le sida, avant, c'était avec la vache folle. On a bien compris leur stratégie. C'est un moyen de pression, ouais. Mais nous, on ne cédera pas. Même avec Ebola, on continuera à manger de la vache, folle ou pas, et bourré de MST ou pas, quoi. Dégueulasse.
Bon, alors moi, j'ai jamais entendu parler hein, d'un complot autour d'Ebola, d'un complot autour du sida, d'un complot autour de la vache folle, je sais pas.
Mais non, bon, bah. Non, mais attends, le sida, nous on le dit aussi, c'est un truc de réac. Ah, oui. Ebola, avec un nom pareil, ça carrément. Sent grave la publicité, genre Ebola, granola, Nutella, mozzarella, c'est dégueulasse.
Ouais, et ça montre clairement que c'est un nom inventé par des publicitaires sans scrupules qui obéissent à un gouvernement qui veut qu'on reste sage. Et ils veulent nous complexer. D'ailleurs, Anso, qui a pas pu être avec nous, salut Anso.
Ah, c'est dommage. Hein.
Salut Anso.
Ouais, c'est une pote du collectif Sans mitraille et sans chaussettes. Qui dénonce les sévices psychologiques que les pseudo-maladies font subir à notre génération. Il y a un mal-être croissant d'abord, il y a un taux de dépression important chez les jeunes, surtout les salariés d'Orange. On nous fait culpabiliser et tout, et c'est dégueulasse. Et en plus, il faudrait qu'on remercie l'État de nous protéger.
Oui, donc je vois le genre, hein. Théorie du complot. Vous êtes vraiment une belle bande de parano, là.
Non, non, mais attends, de la paranoïa, tu crois qu'on est dupe quand on nous dit d'acheter ceci ou cela parce que c'est mieux ? Tu vois, j'ai lu un truc la dernière fois, c'était sur la suppression des avantages fiscaux pour Apple en Irlande. Bah là, ouais.
Oui.
Là, je dis ouais. Ouais, la France doit faire pareil.
Ouais, parce que c'est aussi un combat politique qu'on mène. On dit non à Apple, et donc tous les membres de l'ASSO, ils ont pris leur iPhone 6 et ils ont mis à la place de la pomme un autocollant épi de maïs pour dire non aux OGM et à Apple en même temps, ça fait un épi de maïs qui scintille quand on l'allume, c'est trop stylé. Moi, du coup, comme je suis vraiment un fou, pour vraiment dire non à la société de conso et pas seulement à Apple, je suis allé plus loin et j'ai acheté le dernier Samsung. Parce que tu vois, la lutte associative, c'est avant tout de l'engagement et des sacrifices.
Ça y est, je pense que j'ai compris. Bon, c'est pas forcément facile de vous suivre, hein. J'ai pris des notes, j'en ai rempli des calepins, mais je crois avoir compris, chers auditeurs. En fait, vous faites un lien entre tout et n'importe quoi, faut le dire. Hein. C'est ça le problème, votre propension à tout mettre en lien.
Mettre en lien, ouais, carrément. Hier soir, d'ailleurs, j'ai mis en lien sur notre page Facebook la page d'Anso sur la dénonciation de la sélection à l'université parce
oui,
que
bon.
Ça, c'est dégueulasse. Et d'ailleurs, on est aussi à l'UNEF et on va pas se laisser faire. Hein.
Et là, franchement, c'est pas de la théorie du complot, mais cette dernière annonce, ça souligne l'importance de la mobilisation des jeunes parce que c'est nous qui devons faire changer le monde. Parce que c'est comme ça qu'on peut lutter contre la violence du capitalisme et la peur que l'État veut distiller en chacun de nous pour nous faire des citoyens responsables. Et ça, c'est dégueulasse.
Ouais, c'est ce genre de peur partout qui fait qu'après, ben, les jeunes, ils votent FN. Parce qu'ils ont peur d'Ebola. Et là, on se taira pas là-dessus, quoi.
Eh bien, merci pour cette intervention originale. Nous allons maintenant passer à la suite de l'émission.
Hein. Fasciste.
Merci à Clem et Sam, alias Tatiana et Florent. On s'intéresse maintenant à Lyon, à ce qui s'y passe de culturel, de politique, de social et que sais-je encore. Et pour cela, je soumets mes gones à la question, ainsi que mes invités, hein, Myriam et Julie du Refuge.
Aidez-nous.
Qui peuvent intervenir à tout moment, mais oui, et pourquoi pas, direct, vous gréez la politesse, cher gones, en répondant avant vous à cette première question. Pourquoi peut-on dire qu'un héros a pris ses quartiers à Lyon ?
Un héros de science-fiction.
Non, évidemment non. Pas, c'est tout l'enjeu de la question.
D'accord.
Pas un héros de science-fiction, oubliez Batman, Superman et ses collants, non.
Bon.
Un héros a débarqué à Lyon, Marie-Ève, une idée ?
Tu l'écris comment, héros ?
Ah mais voilà, ça ne s'écrit pas comme un héros. Ça s'écrit E2RO avec un petit accent aigu sur le O final, héros.
Ah oui !
Exposition au MAC.
Et oui, effectivement, bravo Julie. Pour vous faire deviner d'ailleurs, j'avais ce petit indice qui vous aurait bien sûr mis sur la voie.
On baigne du soir au matin dans la sensibilité. Dès que c'est beau, ça ronge. Ils m'ont dévoré, les artistes. Renversé, j'ai plus de défense. Même un ticket de métro joliment plié, ça m'émeut.
Il serait pas temps que t'envisages ta retraite, Alain ?
Mais où ça ?
À la campagne.
Quand on est resté pendant des années devant Courbet, Degas, Miro, Chirico, tu crois qu'on peut regarder une poule ? Je ne veux pas finir gardien de campagne. T'as vu qui visite ? Des ploucs ! Avec des tracteurs !
Vous auriez reconnu Jean-Michel Ribes et son adaptation de sa pièce Musée au Musée Bas pour vous conduire bien sûr au MAC, au Musée d'Art Contemporain, où depuis le 3 octobre et jusqu'au 22 février 2015, on peut aller voir Héro. Alors est-ce que vous y êtes déjà allé ou est-ce que vous comptez y aller au MAC pour voir cet artiste post-moderne autour du plateau là ?
Moi, j'ai seulement vu les affiches et ça m'a
ouais.
suffi pour le moment. Donc
ah non,
verra
tu as été échaudé par les affiches. Alors Julie, tu connaissais la réponse, t'as vu les affiches aussi ?
Oui, j'ai vu les affiches et j'ai l'intention d'y aller.
Ouais,
aussi.
Tu connaissais avant ou c'est par les
non,
affiches ?
Je connaissais,
ouais. Alors qu'est-ce que t'aimes chez lui ?
Moi j'aime bien sa dénonciation dans ses œuvres
ouais.
de, de tout ce qui est savoir et le collage aussi, j'aime bien. Donc.
C'est ça, parce qu'il fait des collages,
il fait
des tableaux. Et ce qui est fou, c'est qu'avant les réseaux sociaux, il avait compris cette surinformation qui nous caractérise. Et c'est pour ça que les toiles ou les collages sont remplis de plein d'informations, de bonhommes, etc. Autour de la table, est-ce que vous irez voir Hérault, quelqu'un d'autre ?
Pourquoi pas, je ne connaissais pas, j'ai eu peur que tu nous parles de Jean-Marc Hérault au début. Donc,
Il y avait un ancien premier ministre, je me disais bon. À part s'il vient avec son camping-car Volkswagen, qui apparemment était le seul truc intéressant sur sa fiche d'impôt.
Non, alors c'est pas lui qui viendra, et il n'est pas non plus, alors moi ça m'a étonné, Hérault, on a l'impression qu'il est espagnol, pas du tout, c'est un pseudo, il est islandais. Au départ, il s'appelle Gomundur Gomundsson, de son vrai nom.
Il a bien fait de changer.
Ah, il a bien fait de changer, quand même.
Sinon, on s'en rappellerait pas. Hein.
Mais il travaille à Paris depuis 1958. Et effectivement, je vous encourage à aller le voir au MAC jusqu'au 22 février 2015. C'est maintenant à vous de jouer, chers auditeurs, comme Mekon. Et vous gagnerez peut-être, en partenariat avec le Ninkasi, un coupon cadeau de 15 euros, valable jusqu'au 31 janvier 2015, sur un repas pris au Ninkasi Gerland, hors réveillon. Pour cela, rien de plus simple. Et dans la continuité de la question d'il y a quelques instants, il vous suffit de citer une œuvre de Hérault, cet artiste postmoderne, actuellement exposé au MAC de Lyon. Vous avez une réponse, inscrivez-la dans la partie commentaire de la page de l'émission. Vous compléterez peut-être la liste de nos gagnants, Benjamin Errant et Joy Henrion. Tirage au sort parmi les bonnes réponses, détails du jeu dans le règlement disponible sur notre site. Alors Marie, je ne sais pas si tu vas effectivement y aller voir Hérault, mais tu remarqueras que dans ces collages, ces tableaux, il y a des personnages antiques. Et ça tombe bien, parce que tu nous brosses au fur et à mesure des émissions une histoire de Lyon, légèrement décalée, et il me semble qu'on en est à l'Antiquité, c'est ça hein ?
C'est bien ça.
Maman, bouge-toi les oreilles, on remonte le temps.
Au 3e siècle, Lyon a la Gaule. Au 8e, elle n'a plus qu'un archevêque. Et entre deux, il s'est passé des choses. À Lyon, on s'ennuie. Et comme on s'ennuie, on fait des jeux. Et comme on a des clandestins, on les torture. Les clandestins, c'est des chrétiens. Dans leur période, être chrétien, c'est punk. En 177, on martyrise tout ce petit monde. L'évêque Potin, en prison, a 90 ans. Comme tous les petits vieux maltraités, il meurt. Blandine a dit « Vive Lyon !» Le bourreau a dit « À bouffer pour les lions !» Blandine a survécu. Elle a dit qu'elle était chrétienne, le bourreau l'a flagellée. Elle a dit qu'elle était chrétienne, le bourreau l'a fichu sur le grill. Elle a dit qu'elle était chrétienne, le bourreau l'a faite encorner par un taureau. Elle a dit qu'elle était chrétienne, le bourreau a dit « Mais tu vas la fermer !» Et il l'a égorgée.
Ça, bref, c'est un destin, hein.
Bref, on a martyrisé Blandine. Après, je me suis souvenu que Thomas a dit qu'en fait, Sainte Blandine a sans doute été martyrisée à Vienne et pas à Lyon. Je m'en suis voulu de ne pas l'écouter lorsqu'il parle. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé. Je crois que je suis viré de l'émission.
Effectivement.
À Lyon, c'est la merde. La ville est pillée plusieurs fois par des troupes romaines, envahie par les barbares, déchue de son statut de capitale des Gaules. Non mais ça, on s'en branle. Elle n'a surtout plus le monopole de la vente du vin en Gaule depuis 280. Donc à Lyon, on boit de l'eau. Des pillards coupent les canalisations d'eau au niveau des aqueducs. Donc à Lyon, on crève de soif. Les gens quittent Fourvière. Ils s'installent sur les rives de la Saône et se servent en eau dans la rivière. Moi, je trouve ça dégueulasse. Après, je me suis dit que c'était pas pire que la croix servie le jeudi en festive. J'ai relativisé. On est au 4e siècle. Toute la ville s'est convertie au christianisme. L'évêque de Lyon est le premier de toute la Gaule. Puis les barbares s'installent. Ils sont propres sur eux, la barbe bien taillée, et ils copulent comme des petits lapins. À Lyon, niveau barbare, ça défile. Il y a eu les Burgondes, avec le roi Gondebeau, qui impose la loi Gombette, et on ne se fout pas de sa gueule parce que c'est pas gentil.
Pardon.
Et puis les Francs, et puis les administrateurs carolingiens. Automne 840, le forum antique de Fourvière s'effondre. Les colonnes roulent jusqu'en bas de la colline. Je me suis dit que c'était poétique, et que ça faisait une belle conclusion pour mes chroniques du Lyon antique.
Alors retour au présent, on continue de jouer avec l'actualité locale grâce à cette question. Contre quoi Philippe Laya se bat-il ?
C'est un toréador.
Ce n'est pas un toréador, non ? Il y avait mille et une possibilités, il faut que tu trouves le toréador. Non !
Contre les liens Facebook et puis les OGM et puis le...
Ah, avec ouais, les OGM, on se rapproche peut-être du champ, du métier de notre agriculteur, il faut le dire. Il est agriculteur, Philippe Laya, c'est le premier indice.
Contre le FNSEA ?
Non. En fait, il se bat contre quelque chose qui ne touche pas directement l'agriculture, mais qui touche quand même son métier d'agriculteur.
Il est éleveur de taurillons, alors ?
Non, mais tu as vraiment un problème avec les taureaux en ce moment, Marie-Ève.
Les abeilles.
Non,
un
non, non.
Stade. Le frelon asiatique.
Ah, oui. Ah. Vas-y, oh. Julie, tu es encore sur la bonne voie.
Je crois qu'il y a
parfait,
un stade qui va être créé
oui, c'est
sur,
ça.
Sur sa plateforme et du coup, il se bat contre ça.
Effectivement.
Il a été expulsé. Ou...
Le stade de l'OL, comme nous l'aurait dit cet indice.
C'est pas possible. Ça fait deux fois que tu nous le mets, ça c'est
ouais.
plus possible,
et puis
Thomas.
C'est pas la mienne, Thomas. Ouais.
J'ai des actions.
C'est
dans
vraiment
cette
une
chanson.
Sale version en plus. C'est... Ouais.
Oui, alors comme nous le disait Julie à l'instant, il se bat contre son expropriation qui doit permettre la construction du grand stade de Lyon à Decines, puisqu'à l'instar de ce qu'avait fait l'Allemagne avec son mondial en 2006, la France, elle veut profiter de la prochaine organisation de l'Euro 2016 de football pour se doter d'enceintes ultra modernes, adaptées aux standards et aux normes actuelles. Et donc, un stade devrait fleurir à Bordeaux et un autre à Lyon. Alors pour Bordeaux, c'est bon, hein, ça arrivera début 2015. Pour Lyon, eh bien avec Philippe Laya, ça pose des problèmes parce que l'agriculteur il refuse de céder ses terres hein, sur lesquelles devrait empiéter le site de construction. Alors d'abord, il était complètement dans l'oubli, mais depuis peu, son combat est médiatisé au point même qu'une pétition nationale a été signée par 40 000 personnes en 24 heures, rendez-vous compte. Mais une question, est-ce que David a une chance de gagner contre Goliath ?
Alors, je crois que David n'est pas tout seul, il est entouré de plein de chèvres ou de brebis en ce moment. C'est bien ça, non ?
Peut-être.
Il y a des moutons ou des chèvres, je sais pas quoi, sur tout le parc en ce moment. Alors déjà, David n'est pas tout seul, c'est un bon point.
Oui.
Après, à savoir si Goliath prend Goliath qui pourrait être Gérard Collomb, hein, attention.
Oui, ou Jean-Michel Aulas,
voilà,
par exemple.
Bon. S'il prend une technique très poutinienne, comme à Sochi, on vire tout le monde et on ne demande rien.
Mais je pense qu'on peut le soutenir aussi, non ?
Moi,
par exemple, je le soutiendrai parce que je ne pourrais plus regarder les matchs de l'OL depuis ma fenêtre. C'est quand même...
Et oui, parce que tu habites tout près de Gerland.
Oui.
Voilà.
T'as vraiment de la chance.
On reste dans le sport avec Romain, dont je vais lire la chronique. Décalage horaire et topique entre Provins et Lyon oblige. Vous saurez tout de l'actualité sportive lyonnaise. On commence cette chronique par le foot féminin. Et grâce aux Lyonnaises, on voit du pays, c'est rien de le dire. Elles ont disposé aisément de Soyaux, 9-0. Score somme toute assez banal pour elles. Allez, une dernière ville pour la fin dans ce tour de France et même d'Europe. 9-0 une nouvelle fois, mais en Ligue des Champions. Brescia, Italie, bien sûr. Et une chose est certaine, à ce train-là, elles ne sont jamais réinvitées deux fois dans la même ville. Parlons du ballon rond masculin maintenant. L'OL a encore gagné, comme quoi le foot est un sport surprenant. 5-1 contre Montpellier à Gerland, avec des buts en cascade. Une copie parfaite. Dirigé avec goût par Johan Gourcuff, oui, je dis bien Johan Gourcuff, qui signe même un doublé. Surprenant ce match, je vous avais dit. Après le ballon rond, celui qui rebondit, basket donc, et l'heure est grave à Lyon. 3 défaites en 4 matchs pour l'ASVEL Villeurbanne, que l'on voyait pourtant flirter avec les sommets. Certes, le championnat n'est pas perdu, mais quand on voit le niveau affiché par des joueurs de ce calibre dans une défaite 56-64 contre Chalon-sur-Saône, non mais sérieusement, Chalon-sur-Saône, et ne me parlez pas de la pression des derbies, désormais 17e sur 18, l'ASVEL va devoir relever le niveau affligeant de son ratio victoire-défaite qui est actuellement de 25%. Les basketteurs peuvent peut-être prendre exemple sur les rugbymen, pour une fois, sur le Lyon OU, c'est-à-dire le Loup, qui se donne de l'air grâce à cette victoire propre et nette 24-19 contre Bayonne. Les actuels 9e du top 14 peuvent méditer sereinement cet adage Game of Thronesien, Winter is coming. Et avant l'arrivée de l'hiver, on quitte les ballons pour les arçons. Le Lyonnais Cyril Thomazone, déjà médaillé d'argent au cheval d'arçon en 2011 à Tokyo, est arrivé il y a quelques semaines 3e à Nanning à l'occasion des championnats du monde et remporte donc une médaille de bronze. Bravo à lui! Passons au clin d'œil de Romain, avec le handball et le PSG handball qui signe une 4e victoire de suite en Ligue des Champions, 39-28 contre Brest. Brest qui ne se situe pas en Bretagne mais en Biélorussie, ami géographe, cette victoire ne fait que renforcer leur statut de premier de la poule. Tant mieux. Quant à Romain, il aura l'occasion de vous faire entendre sa belle voix de coq. En effet, dans le prochain numéro des Gaunes, ce n'est pas par ma voix qu'il vous tiendra au courant de ce qu'il se passe dans le monde sportif lyonnais, mais par la sienne. En attendant, d'ici là, surtout, n'oubliez pas, lavez-vous après le sport, sinon, vous sentirez la girafe. Et après l'actu, on passe maintenant aux associations. Dans chaque émission, vous le savez, on met en lumière une association de Lyon. Et pour ce 3e numéro, c'est l'antenne lyonnaise, une association qui propose hébergement et accompagnement à des jeunes en situation de rupture familiale du fait de l'annonce de leur homosexualité ou de leur problématique transidentitaire, Le Refuge. Le Refuge, à Lyon, c'est un local d'accueil de jour. 4 appartements relais, une ligne d'écoute, appel et SMS, joignable 24h sur 24, 7 jours sur 7, un poste de conseillère en économie sociale et familiale, un poste de psychologue à mi-temps, à quoi il faut rajouter 6000 heures de bénévolat, c'est-à-dire près de 4 emplois du temps à temps plein. Bref, ça rigole pas, hein ? Une action qui est d'autant plus nécessaire que chaque année, 30% des homosexuels de moins de 25 ans tentent de se suicider, selon un rapport rendu au Sénat en 2013. Et à 64%, les raisons de leur geste de désespoir, c'est la précarité et la peur de se confronter au regard des autres et principalement celui de leurs proches. Et pour parler de tout ça, eh bien oui, elles sont là, vous les avez entendues. Surtout Julie, qui était brillante. Elles sont bien placées pour représenter aujourd'hui Le Refuge sur les ondes de Transistor, puisque Julie est responsable communication et Myriam est l'ancienne déléguée régionale, aujourd'hui bénévole au sein du pôle subvention. Mais avant de commencer l'interview, voici Le Refuge, ou plutôt son association lyonnaise en quelques autres chiffres, grâce à la fiche signalétique de l'association.
La fondation de l'antenne du Refuge à Lyon
a eu lieu en janvier 2011.
Elle est composée d'un certain nombre de membres,
35 précisément,
et a un budget de
assez rond, de 85 000 euros.
Alors pendant les interviews, chers auditeurs, vous le savez, on écoute des extraits de la scène musicale lyonnaise et on commence avec un voisin, natif de Villefranche-sur-Saône, Benjamin Biolay, et « Si tu suis mon regard », en pied noir évidemment, Benjamin Biolay et « Si tu suis mon regard », et si vous tendez l'oreille, chers auditeurs, vous risquez de l'entendre. Si tu suis mon regard, tu verras des doutes, des gens qui partent tard, tard au bord de la route. Tu verras le soleil qui recule d'un pas, qui devient vert bouteille et commence chez moi. Si tu suis mon regard, tu verras des plaines, des taxis, des gares, 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 la migraine. Tu verras tout vermeil, tu verras tout.
En fait, est-ce qu'on pourrait remettre l'hymne de l'OL? C'est, enfin, je... et tout. Ce serait mieux. Même une version étendue et tout. Enfin, moi, je suis prêt.
Tu peux la faire au micro, non?
Je connais pas, mais ça, c'est trop
dur. Un peu sérieux autour de la table. Mépris, insultes, violence physique, rupture totale. Il n'y a rien de drôle là. Et c'est ce qui arrive encore aujourd'hui en 2014 quand un ou une jeune annonce à sa famille, à ses amis, son homosexualité, sa bisexualité ou ses questionnements transgenres. Et c'est pour aider ces jeunes-là que le refuge trouve sa raison d'être. Et vous les aidez, Julie et Myriam, de deux façons, principalement hébergement et accompagnement. L'hébergement d'abord, hein, je le disais tout à l'heure, parce que quand un jeune LGBT il est dans la rue, l'action du refuge, c'est d'abord de lui fournir un toit de façon temporaire, c'est ça, hein ?
Oui, en fait, les jeunes, du coup, quand ils sont dans une situation de... d'exclusion, qui sont dans la rue, qui n'ont pas de logement, nous on leur propose un hébergement temporaire qui peut aller jusqu'à 6 mois, reconductible si besoin. Et du coup, après, on les aide à retrouver un emploi et par la suite un logement. Du coup,
alors Myriam, hébergement rime avec responsabilité et surtout pas avec gratuité, n'est-ce pas, hein ? Vous faites un peu payer
en fait,
symboliquement.
Complètement. On a un barème pour, de paiement des loyers, c'est participation en fait aux frais d'hébergement, qui est de 25 euros minimum par mois. Donc, sachant que ces jeunes peuvent solliciter l'aide du CCAS du 9e arrondissement pour obtenir un phage. Donc, même s'ils n'ont pas de ressources, ils ont la possibilité de solliciter une aide. Et en fait, ce système est mis en place pour les responsabiliser et puis aussi par respect pour leur dignité, puisque c'est jamais très facile d'être en position de celui qui demande. Et donc, en contribuant, même si ça reste assez symbolique hein, par rapport au logement dont ils bénéficient, ça leur permet quand même de participer.
Ah oui, parce que le refuge, c'est pas un hôtel, et on entend bien quand vous parlez de responsabilité, il y a bien cette idée d'accompagnement aussi qu'il y a derrière. Et alors Julie, les jeunes LGBT, vous les accompagnez, mais j'ai envie de dire totalement, parce que c'est social, médical, juridique, économique, vie quotidienne, c'est tout quoi.
Ouais, complètement. Le but en fait, c'est de leur redonner un cadre, de les responsabiliser, pour qu'ensuite ils puissent justement se débrouiller tout seuls. Et donc, ça passe par faire des bilans de santé, des bilans sur où ils en sont au niveau de leur formation, et refaire un CV, refaire des lettres de motivation. Enfin, l'accompagnement est complètement total dans le but, justement, de repartir à zéro et de recommencer, de se reconstruire, en fait.
Accompagnement juridique aussi, Myriam ?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a des partenaires au niveau de Lyon qui peuvent aider ces jeunes. On a aussi un avocat qui est bénévole pour l'association au niveau national, donc qui ponctuellement aide les jeunes sur des cas très particuliers. Donc, en fait, on essaye, quand le jeune arrive, de faire un bilan, en fait, sur sa situation, qu'elle soit scolaire, au niveau de la santé, qu'elle soit au niveau de ses ennuis juridique, puisqu'il arrive que certains arrivent avec un passif qui n'est pas simple. Donc on essaye de démêler tout ça et de faire en sorte que pendant les mois qui va passer avec nous, il va pouvoir régler un certain nombre de choses et repartir sur un bon pied.
Alors ce qui est important aussi, cet accompagnement personnalisé, il se double aussi en amont d'actions pour prévenir contre la transphobie, contre l'homophobie. Et c'est pour ça que vous intervenez notamment dans des établissements scolaires. Alors comment ça marche et surtout, est-ce que ça marche ?
Récemment d'ailleurs, on a eu l'agrément par l'État pour pouvoir le faire, parce que c'est vrai qu'on n'était pas agréé avant, donc c'était plus difficile de pouvoir intervenir. Et du coup, on intervient dans les lycées.
Alors concrètement, vous faites quoi ?
Voilà une présentation en fait de la problématique de l'homophobie. Donc on essaie d'expliquer comment le mécanisme de l'homophobie, de quoi il découle en fait. Et puis on essaie de combattre les idées reçues.
Les stéréotypes. Voilà, et vous pensez que ça marche quand vous êtes en face du public étudiant? Vous avez cette bonne impression que oui
Ça génère des fois des réactions très violentes, puisque en fait il y a un échange qui se fait entre l'intervenant, enfin les intervenants, et puis le public lycéen ou collégien, je crois que c'est pas encore le cas. Parfois il y a des réactions comme ça qui peuvent être très virulentes, mais à la fois il y a aussi des manifestations de reconnaissance de certains de ces étudiants qui se sentent isolés parce qu'ils ne peuvent pas parler de leur homosexualité avec leurs camarades de classe et qui sont quand même assez contents qu'il y ait un intervenant extérieur qui arrive et qui pose certains sujets. Ça, du coup, ça soulève des questionnements entre eux après, ça leur permet d'en parler avec leurs camarades ou simplement de sentir que s'ils subissent l'homophobie, c'est pas quelque chose de normal en tout cas.
Sa gorge, elle étouffe ses pleurs. Quand il parle, il crache la plus profonde de ses rancœurs. Tout ce qu'il propose, c'est cette phrase tout en douceur. Va vérifier dans l'Égypte les tics, ton pleur, tu pisseras mon. Puis la serre dans ses bras, l'arrête en ta mi-chemin. Je m'excuse, je t'aime, arrête ce chagrin. Tu sais bien que la bohème, c'est parfois.
l'artiste préféré de Florent, hein, Buridan à l'instant sur Transistor, et une chanson...
C'est quand même bien mieux que Biolay, hein, enfin je...
Une chanson hélas de circonstance, c'est toi qui me l'as suggéré d'ailleurs, n'est-ce pas ? La dispute. Et une question polémique maintenant, Julie et Myriam. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui critiquent le refuge et qui disent « Oui, mais c'est facile, c'est une association communautaire, communautariste, voire sectaire. » Vous leur dites quoi à ces gens-là ?
C'est vrai qu'on peut se poser la question de la nécessité d'une association comme la nôtre, parce que finalement, des associations qui aident des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont isolés ou qui sont en rupture sociale, il en existe plein. Donc pourquoi avoir créé une association spécifiquement dédiée aux homosexuels ou aux transsexuels ? Donc la raison, elle est simple. Et elle est double. La première chose, c'est que en fait, c'est déjà une population qui est stigmatisée, qui est marginalisée. Donc, si vous mettez ces personnes-là dans des structures qui accueillent des profils très divers, ça amplifie en fait ce sentiment d'exclusion. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que les personnes qui travaillent dans ces autres structures, même si elles font très bien leur travail, ne sont pas formées aux problématiques spécifiques de l'homophobie ou de la transphobie. Et du coup, ça donne son sens à une association comme la nôtre, parce qu'on ne parle pas toute la journée de l'homosexualité avec les jeunes du refuge, mais simplement, on intègre le fait qu'ils soient homosexuels ou qu'ils soient en transition. Et ça ne pose pas de soucis. Ils sont très contents de nous montrer de temps en temps la photo de leur petite amie ou de leur petite amie sur leur portable.
Alors, sectaire ou pas, le refuge ?
Moi, je réponds clairement non, on n'est pas du tout sectaire. D'ailleurs, la composition des bénévoles au refuge de Lyon, et c'est représentatif de ce qui se passe au niveau national, est très éclectique. On a des profils très, très différents. On a aussi bien des hétéros, des bi, des homos, des garçons, des filles, des jeunes, des vieux. Voilà.
Donc, alors, polémique pas... à part, hein, j'ai lu des témoignages sur votre site, d'ailleurs très émouvants, de jeunes qui décrivent l'extrême violence, hein, de leurs proches à leur égard, et qui vous remercient de votre aide. Donc déjà, je pense que quand on lit ces choses-là et qu'on fait partie du refuge, on est forcément touché. Et ils disent souvent avoir trouvé une famille au refuge. Alors c'est très beau, mais en même temps, est-ce que votre travail, c'est pas aussi d'essayer de renouer le contact avec leur famille d'origine, de faire que ce contact puisse un jour renaître ?
Alors, en fait, par rapport à la famille, c'est vrai que quand les jeunes arrivent au refuge, généralement, ce lien, il est coupé depuis longtemps. Puisque en fait, entre le moment de la rupture, c'est-à-dire clairement le moment où ils ont été foutus dehors et le moment où ils nous arrivent, il peut s'être écoulé beaucoup de temps. Donc c'est pas si évident. Ils sont chez nous pour une période de 6 mois. En moyenne, en réalité, c'est plutôt 3 mois. Donc c'est quand même pas si évident de régler tous leurs problèmes. Et puis les questions de rapports familiaux sont quand même très complexes. Et on n'a pas la prétention d'avoir une baguette magique. On aimerait pouvoir les aider à résoudre ça, mais c'est quand même assez difficile.
Mais parce que Julie, en lisant vos témoignages, c'est extrême la violence qui peut tout d'un coup tomber sur un jeune qui avoue comme ça, alors que ça devrait pas être un aveu d'ailleurs, ouais, non, son homosexualité, ses problématiques transgenres.
Oui, non, c'est vrai que c'est pas, enfin, c'est vraiment des situations souvent très extrêmes. Donc, comme le disait Myriam, généralement la situation est complètement rompue avec la famille. Mais après, ça arrive aussi qu'il y a des jeunes qui renouent des liens. Ça peut arriver que après ils arrivent à se reconstruire et du coup les parents aussi, ça se remet en place. Mais après, il y a aussi l'association Contact qui est dans notre local, qui elle est plus spécifiée dans les relations parents
et médiation.
Enfin, ouais, la médiation familiale, nous, ce n'est pas notre point central, en fait. On est pas...
Oui, parce que parfois, des parents peuvent réagir violemment et puis après, réviser leur position, on va dire. Parfois, il faut savoir pardonner. Sophie Tite reprend « Sorry seems to be the hardest world ». It's sad, it's so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Alors, ce qui est paradoxal un petit peu, hein, dans cette situation, Myriam et Julie, c'est qu'on pourrait avoir l'impression qu'aujourd'hui, l'homosexualité est quand même voilà, bien acceptée, bien ancrée dans la société. Pourtant, quand je regarde les chiffres, hein, de votre dossier de presse, on constate que c'est évidemment tout le contraire. On fait de plus en plus appel à vous, hein, à Lyon, puisqu'entre 2011 et 2013, on est passé de 57 demandes à 137, soit une augmentation d'environ 140%. Oui, j'ai fait L, mais j'ai appris à faire des pourcentages. La France, elle est de plus en plus homophobe ?
La France n'est peut-être pas de plus en plus homophobe, mais je pense qu'elle a peut-être plus montré son homophobie à travers par exemple le mouvement de la Manif pour tous avec la question sur le mariage homosexuel. C'était des homophobies qui étaient peut-être ancrées, mais qu'on n'avait pas l'occasion de montrer dans la société, et ça a permis de libérer quand même une certaine parole homophobe dans la société, et du coup les jeunes qui n'étaient pas forcément concernés ont vu leurs parents défiler ou leur famille se prononcer sur ces sujets, et du coup ça a aussi augmenté, enfin
il y a eu un lien direct entre eux.
Pendant toute la période des manifs pour tous, la ligne d'urgence avait à peu près 3 fois plus d'appels qu'en temps normal.
Alors, pour lutter contre cette homophobie, cette transphobie, est-ce que vous êtes plutôt contente de ce geste, de ce pas, alors timide, hein, que vient de faire le pape François vers les homosexuels en parlant, je cite, hein, des dons et des qualités que les personnes homosexuelles ont à offrir à la communauté chrétienne? Vous pensez que ça va dans le bon sens? Dans le sens de lutter contre l'homophobie? Ou pas?
Ça reste le pape. Après, forcément, il est obligé de se tenir à une certaine position, puisqu'il représente l'Église. Et forcément, c'est vrai qu'au niveau religion, c'est pas recommandé d'être homosexuel. Mais c'est vrai que s'il commence à se positionner sur ce genre de choses, c'est peut-être un premier pas, mais c'est pas...
Oui, c'est quand même un message d'ouverture, même si voilà, faut mettre les choses entre guillemets et relativiser beaucoup les choses. Mais ça peut avoir peut-être un impact justement sur la communauté catholique qui est...
Un gone qui veut réagir
Par rapport à Benoît XVI, redevenu Ratzinger, c'est quand même un gros pas en avant, parce que lui, il était vraiment, enfin, il refusait même d'en parler, tout en refusant d'évoquer les problèmes de, enfin, d'autres problèmes de l'Église. Enfin, c'était vraiment tabou comme sujet. Donc,
déjà en parler, c'est déjà, c'est sûr, c'est déjà une grande ouverture.
Surtout en parler, pas seulement pour dire qu'ils doivent être
condamnés,
être condamnés et ne pas rentrer dans les églises et. Mm.
Alors on parle de vos actions depuis tout à l'heure au refuge, et je vais citer des villes: Paris, Lille, Strasbourg, Bordeaux, Saint-Denis-la-Réunion, Toulouse, Montpellier, Marseille. Alors non, chers auditeurs, ce n'est pas le dernier classement têtu des villes gay-friendly, c'est la liste des délégations du refuge en France. Donc si je suis bien, ça veut dire que si je suis lesbienne à Quimper, ou si je suis bi à Chartres, ben je me débrouille tout seul quoi.
Alors pas du tout, parce qu'en fait on accueille des jeunes qui viennent de partout en France, y compris des DOM. Alors déjà parce qu'effectivement il n'y a pas d'antenne du refuge partout. Alors on peut espérer qu'avec le temps les choses se développent et que ça puisse être représenté de façon plus égalitaire sur le territoire. Mais il y a aussi le fait que pour certains jeunes c'est une nécessité de s'éloigner de leur milieu d'origine. Ce qui sont pour certains, on a eu le cas à Lyon, on a hébergé une jeune fille qui était en danger de mort parce que sa famille voulait la liquider parce qu'elle était lesbienne, et donc dans son cas il était plutôt recommandé qu'elle soit éloignée de son foyer.
Mais on parle de violence, chers auditeurs, là on touche quand même au summum. On parle de ville depuis tout à l'heure, mais vous n'allez pas me contredire si je vous dis qu'à la campagne c'est encore plus compliqué d'être homosexuel, parce qu'il y a moins de référents identitaires, il y a aussi le problème de la mobilité. Vous faites quelque chose en campagne, en milieu rural, vous avez des actions?
Alors actuellement, au niveau de Rhône-Alpes, on a un groupe de travail. Alors, c'est pas encore une antenne, c'est un groupe de travail en Ardèche avec quelqu'un qui fait des interventions au milieu scolaire et je salue Cathy de Vignard d'ailleurs pour ce travail parce qu'elle est toute seule et elle porte une grosse responsabilité là-bas. C'est quelque chose qu'on essaye d'étendre au niveau de notre région. Alors c'est vrai qu'on parle souvent de la délégation de Lyon. En réalité, on est de la délégation Rhône-Alpes.
Oui.
Alors c'est vrai que nos activités sont centralisées sur Lyon, mais vraiment on a pour objectif d'essayer de toucher tout le territoire.
J'interroge le ciel en vidant ma bouteille. Pour sortir de l'auberge, il faut trouver la clé. Il faut trouver la clé.
Pro Homme à l'instant sur Transistor et un extrait de Ne plus y penser. Alors avant de ne plus y penser, cette interview, Julie et Myriam, dernière question avant de vous laisser entre les griffes des gones, et c'est un rituel. Chacune en quelques mots, dites-moi ce que représente pour vous l'engagement associatif.
J'avais vraiment envie de m'engager dans quelque chose de concret et pas uniquement de faire de la sensibilisation sur le thème de l'homosexualité. Et du coup, c'est vrai que être confronté à des situations de jeunes qui sont vraiment exclus socialement et de pouvoir se sentir utile en pouvant les aider et les accompagner.
Alors, concret, utile, voilà. Est-ce que c'est des mots que tu partages, que tu en mettrais d'autres, Myriam ?
Oui, complètement. Moi, ce qui me plaît dans le refuge, c'est que ce n'est pas une association militante, même si c'est important de défendre les droits des homosexuels. C'est vraiment quelque chose de concret. On apporte une aide matérielle, un soutien aussi psychologique. Et quand on voit le résultat que ça produit sur des jeunes qui nous arrivent complètement recroquevillés sur eux, qui n'ont absolument confiance en personne, et quand on voit la relation de confiance qu'on arrive à établir en quelques mois, et le travail qu'ils font, c'est la plus belle des récompenses qu'on ait.
Très bien, maintenant je vais vous laisser face à mes gones. Je vous préviens, le premier contact peut être rude, leurs questions sont provocantes, absurdes, décalées, stupides, mais ils vous les posent quand même.
Alors, donc vous avez dit que vous accueillez des jeunes de 18 à 25 ans, donc vous avez vraiment des limites d'âge précises, pas comme les auberges de jeunesse au 21e siècle par exemple. Ça vous arrive de réorienter parfois des jeunes qui sont un petit peu plus âgés, voilà, on a 26 ans, on peut plus jeune, oui.
Il y a d'autres structures qui existent pour les personnes plus âgées, donc c'est vrai que s'ils frappent à notre porte, on les réoriente, on va pas leur dire non, nous c'est 25 ans, arrête-toi là et débrouille-toi, enfin c'est vrai que... Enfin, on les réoriente vers d'autres structures.
Vous avez quelques noms, ça peut être intéressant.
Alors, il y a l'Auréa JD, notamment à Lyon, qui propose l'hébergement. Et puis, après, voilà, c'est généralement le 115 qui est en capacité d'offrir une solution d'urgence en cas de galère. Mais c'est vrai que le principe de l'association, c'est toujours de réorienter, quelle que soit la nature de la demande, de réorienter la personne vers la bonne structure. Et il nous arrive de déborder de 25 ans. On a déjà eu des jeunes jusqu'à 27 ans à Lyon. On ne prend pas de mineurs si on est sollicité directement par le mineur. Par contre, il y a des décisions de justice, des juges pour enfants qui font des placements de mineurs au refuge. Alors, on n'a pas eu le cas à Lyon encore, mais dans d'autres délégations, ça a été le cas.
Florent, alors ?
Ouais, vous avez dit qu'il y avait un lien direct entre les actions du refuge et la demande d'action du refuge et la manif pour tous. Et justement, on est à Lyon, qui a été une des villes quand même bien en pointe, en pointe bien en arrière du coup dans le combat de la manif pour tous. Je voulais savoir si dans les chiffres d'accueil du refuge, on voit aussi que si Lyon est particulièrement une ville plus touchée que d'autres que celles qui ont été mentionnées.
En tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que sur les deux premières années où on a existé, on avait beaucoup de jeunes qui venaient d'ailleurs en France. Et c'est vrai que sur l'année 2013, dans notre rapport d'activité, la majorité des jeunes venaient de Lyon. Donc, alors, il y a effectivement l'effet aussi de notoriété, parce qu'on a fait un travail de communication, donc on est aussi mieux identifié par la population locale. Mais je pense aussi qu'il y a pu y avoir un impact lié au contexte avec les manifs pour tous.
Eh bien, merci Myriam, merci Julie d'être venue nous parler du refuge. Vous restez bien sûr avec nous pour la partie sortie. Et pour plus d'informations, votre site www.le-refuge.org. Si on sortait, bah oui, dans cette dernière partie de l'émission, chère Julie, chère Myriam, on donne envie de sortir à nos auditeurs et pour cela, on se la joue collaborative puisque chaque gonne donne ses plans et ses envies de sortie. Et on commence avec toi, Marie-Ève, qui sait toujours nous faire rêver.
Oui, alors cette semaine, je compte retourner au restaurant où je suis allée samedi. Contrairement à ce que j'avais annoncé, je ne suis pas allée à la fête de la quenelle sauce mantua, mais je suis allée au restaurant, dans un restaurant péruvien, dans le premier arrondissement, avec ambiance latino garantie. Non, mais c'était vraiment très très bien, avec le Machu Picchu dessiné sur un grand mur. On était vraiment dépaysés, donc je vous le conseille, avec des spécialités comme du magret au canard, sauce péruvienne, assez épicée pour ceux qui aiment. Donc le restaurant La Perle Noire.
Ceux qui connaissent surtout, faut pas non plus nous prendre pour des jambons, hein. Continue.
Pour des jambons. Il y avait un jeu de mots, je vais en faire un d'ailleurs. Donc c'est le restaurant La Perle Noire, 10 rue Pierre Blanc. C'est facile à retenir.
Alors mieux qu'un billet Air France pour le Pérou, le restaurant de Marie-Ève met Est-ce que tu vas y aller, Florent, ou est-ce que tu nous conseilles autre chose ?
Alors non, moi, cette semaine, ce que je vais faire, c'est enfin aller voir Mommy, parce que c'est sorti depuis Mommy de Xavier Dolan, parce que c'est sorti depuis une semaine,
aussi, hein.
Et tout le monde m'en parle déjà, et j'ai l'impression que les gens vont me raconter tout si j'y vais pas assez vite.
Bon, j'ai déjà fait de la promo dans Il regarde le monde tourner 20, mais effectivement, pour moi, c'est la plus grosse claque que j'ai prise de ma vie au cinéma, donc oui, comme Florent, je vous encourage à y aller, je vois Julie qui opine. Tu vas aussi, ou tu as déjà été voir Mommy ?
J'ai vu l'avant-première, justement, avec les jeunes du Refuge, on a été invité par le cinéma de Brigné pour assister à l'avant-première. Les jeunes ont adoré, moi aussi. Il y avait la présence de Xavier Dolan en plus. Donc.
Alors, je ne sais pas si tu vas retourner le voir, mais peut-être que tu vas sortir autre part et tu peux nous en parler.
Je vais sortir autre part. Moi, je ne serai pas sur Lyon ce week-end. Ouais. Je vais à Barcelone, donc voilà. Mais j'allais justement conseiller d'aller voir l'exposition d'Héro. Donc,
voilà,
vous en avez déjà parlé. Donc, du coup, mon bon plan sorti tombe à l'eau.
C'est parfait. Mais apparemment, ni Marie-Ève, ni toi, ni Florent n'avaient prévu d'aller à Fourvière. Vous avez tort.
C'est bizarre.
Et je vais vous y emmener tout de suite dans ma rubrique Insolitement Lyon. À chaque émission, chers auditeurs, je vais vous raconter les secrets de Lyon, tout ce que vous ne savez pas, des monuments ou des rues que vous connaissez pourtant, et tous ces petits détails que vous manquez en passant tout à côté. Renouvelez votre abonnement TCL, achetez-vous une bonne paire de chaussures, je vais vous faire découvrir ou redécouvrir Lyon. Aujourd'hui, on teste la ficelle. Non Marie, on ne s'arrête pas dans une boulangerie, on prend le funiculaire, faut suivre. Ou bien le long d'un rosaire pour les SM, ou les cathos, c'est pareil. On se fait saigner les genoux, on se pète les rotules, oh oui, on se défonce les ligaments croisés. Bref, on monte à Fourvière. Mais pas pour la blancheur basilicale, non non, pour une drôle de tour de métal. Comme un affront au catholicisme rayonnant, Sainte Boutin, quand tu nous habites, hein, parole de cousin Germain. Toi qui nous les brises menus, parole de français, ce n'est pas Gustave Eiffel qui fut à l'origine de cette érection de 160 tonnes de fer, mais un certain monsieur Gay, qui tenait alors un restaurant au nord de la basilique. Pas de hasard, Salazar Serpentard, l'inauguration le 2 mai 1894 de la tour métallique eut lieu pendant l'exposition universelle qui se tenait alors au parc de la Tête d'Or. C'est qu'il fallait, hein, pour Pierre Gay, que les visiteurs sucent ou se rendent pour passer leur soirée. Bref, un sacré coup de com' sur un conseil de l'ancêtre de Bigmalion, certainement. Vous avez besoin d'un tout petit peu de pub ? Pourquoi ne pas faire construire une tour de 80 mètres de haut avec un étage, avec restaurant panoramique auquel on accéderait par un ascenseur hydraulique ? Placée en haut de la colline de Fourvière, la tour métallique culmine à 372 mètres, c'est-à-dire 48 de plus que la tour Eiffel de Paris quand même, hein, construite 5 ans plus tôt, pas vieille et déjà dépassée. Mais surtout, pire que le débat sur les théories du genre, pire que les photos de Valoche complètement torchées aux bananes, tout un symbole, il se trouve que la tour de métal dépasse de 35 cm la Vierge dorée de l'ancienne chapelle de Fourvière. Et comme une dynamo permet d'allumer le soir un puissant projecteur électrique qui envoie ses rayons jusqu'à 10 km à la ronde, on surnomme la tour Gay le phare républicain. Merci Marie. À 10 minutes à pied au sud-ouest, au 30 rue Roger Radisson, vous ne pourrez pas vous purifier de vos péchés, chers auditeurs. Il y a bien un aqueduc, ce qu'il en reste, mais plus d'eau, bien sûr, hein, de l'aqueduc du Gier, qui parcourait pas moins de 86 km avant d'arriver à Lugdunum, où il débitait 15 000 mètres cubes d'eau par jour. Il ne subsiste guère que ces quelques arches que vous découvrirez donc, rue Roger Radisson. Et on finit avec cette citation issue de la plaisante sagesse lyonnaise rassemblée par Catherine Bugnard. Si t'as idée d'arriver centenaire, crains Dieu, bien sûr, mais crains surtout les courants d'air. Insolitement Lyon, c'est une chronique, mais c'est aussi un concours photo Envoyez-nous vos photos les plus originales, les plus inventives, les plus extravagantes, les plus insolites de Lyon. Mais envoyez-les nous. Tous les mois, les gones. Oui, appel SOS. Tous les mois, les gones se réuniront et liront leur coup de cœur. Si vous êtes ce coup de cœur, pour l'instant, c'est limité. Hein, vous gagnerez une place de cinéma offerte par notre partenaire Le Comédia, selon les conditions disponibles dans le règlement du jeu disponible sur le site. Julie, tu nous as dit où tu allais passer un peu de temps. Maria va faire pareil, Florent aussi. Myriam, au hasard, est-ce que tu veux nous conseiller un plan sortie?
Moi, je pars à New York demain, donc je vais voir...
Madame part à New York, bien sûr.
Donc je vais voir ma mamie à Broadway, mais je suis pas sûre que ça intéresse beaucoup les Lyonnais.
Ou ça soit assez accessible aussi.
Mais oui, par contre, non, je voudrais quand même souligner qu'il y a Juliette qui se produira au mois de novembre à Lyon. Et moi, je suis une ultra fan, il faut absolument la voir en live, c'est génial. Donc c'est le 25 novembre.
Ouais.
Et,
où ça
c'est à Vaux-en-Velin.
D'accord.
Et il faut absolument y aller.
Eh bien, c'est noté. Si vous aimez Juliette, vous savez où aller. Tatiana, t'es fan de Juliette?
Alors, non, pas spécialement. Je suis désolée. Mais du coup, Non, mais écoutez, moi, je suis un petit peu à côté du monde. Et Juliette, ça me dit... Excusez-moi, mais ça me dit pas grand-chose. Bon, passons. Allez, alors, je vais vous faire rêver aussi ou pas. Non, mais pour ceux qui peuvent ni aller à New York, ni aller à Barcelone, moi, j'ai un truc qui se rapproche un peu de Barcelone, mais à Lyon. Alors, ouais, voilà. Alors,
vas-y.
Alors, Barcelone à Lyon, c'est quoi? C'est le petit jardin Rosamir à Croix-Rousse. Et je sais pas si quelqu'un est déjà allé dans ce petit jardin.
Non, pas du tout. Pas moi, en tout cas.
On m'en a parlé. Et il faut juste réussir à le trouver. Donc c'est un petit peu l'objectif de ce week-end. Donc ce petit jardin, pourquoi Barcelone? Parce que c'est un maçon espagnol, a priori, qui a construit un petit peu ce jardin. Et donc je ne sais pas si vous aimez les coquillages et les crustacés, mais en tout cas, il y a des coquillages et des galets. Ah mais ça je sais pas. Donc bref, voilà. Si vous aimez les coquillages, un peu Barcelone, tout ça, voilà. C'est le petit jardin Rosamir à Croix-Rousse. Attention, juste au niveau des horaires, c'est 16h-18h tous les samedis et jusqu'à fin octobre. Alors, faut se dépêcher.
Marie, ça te dit de pénétrer dans le petit jardin de Tatiana?
Oui, Thomas. Si j'arrive à trouver l'entrée, manifestement.
Puis les horaires d'ouverture,
c'est
une
très
attention, une petite fourchette.
C'est 18h le samedi jusqu'au 30.
Ça marche, Tatiana.
Enchaîne.
Bon, alors, moi j'ai cru que j'avais raté une exposition et en fait j'ai découvert qu'elle était prolongée jusqu'en janvier 2015.
Vraiment une bande de cas social autour du studio, c'est...
Alors moi je suis un cas social qui aime bien aller voir des costumes un peu anciens, genre des années 90, tu vois, un truc vraiment très ancien, éclairés par une lumière un peu glauque. Au musée des tissus et arts décoratifs de Lyon, ce sont les costumes de l'opéra de Lyon qui ont été utilisés depuis 20 ans. Et donc, si vous y allez le dimanche, en plus, c'est guidé, ça vous fera peut-être moins peur. Voilà.
Et si avec tous ces conseils, vous ne savez toujours pas où sortir, je vous comprendrai un petit peu, chers auditeurs. Je vous conseille, quant à moi, deux événements à ne pas manquer chez nos partenaires. D'abord au Comédia, où le jeudi 30 octobre, à 20h, vous pourrez assister à la projection du long-métrage Chemin de Croix. C'est l'ambiance pour vivre. Voilà, Chemin de Croix, c'est l'histoire de Maria, 14 ans, qui vit dans une famille catholique fondamentaliste. À la maison, comme à l'école, son quotidien il est régi par les préceptes religieux. Elle veut devenir sainte. Tout un programme. Ensuite, je vous propose de sortir au Ninkasi le mercredi 19 novembre. Donc sortez votre agenda, c'est pas tout de suite. Mais vous le savez maintenant, il y a des concerts gratuits qui sont organisés. C'est le cas le 19 novembre et le rock sera à l'honneur avec Nikki Hill. Et oui, c'est rock et en première partie, ce sera I Am Band. Le petit plus de Florent.
Alors oui, une autre idée de sortie, c'est à l'hôtel de région, une exposition sur les détournements d'héroïnes de BD. En fait, c'est les héros de BD très connus transformés en héroïnes parce qu'on s'est, enfin, les auteurs se sont rendu compte qu'il n'y avait que des héros de BD pratiquement.
Il y a une héroïne autour de cette table, c'est Marie-Ève, et on joue la contre-programmation. Après toutes ces idées de sortie, Marie-Ève va vous donner envie de rester chez vous et de passer à table. Avec sa rubrique sur la gastronomie lyonnaise, elle nous fait saliver. Mais si vous suivez l'émission, vous savez que c'est aussi souvent le moment où l'émission dérape. Pas de bol, ça a déjà commencé. Le temps d'un jingle, nous allons savoir à quelle sauce nous allons être mangés.
Chers gones et cervelets qui ne comprenaient rien à mes recettes et ne pensaient qu'aux saucissons chauds, je vais vous décevoir. Aujourd'hui, pâte quenelle au menu. Oh. Mais nous progressons dans la carte des plats lyonnais et arrivons au fromage. Et oui, je vous l'avais promis. Et tout le monde autour de la table sait à présent que je suis une grande amatrice de fromage. Oui. Donc ça tombe bien. Un fromage un peu particulier néanmoins, fait à partir de chair humaine, les nuits de pleine lune sur la Croix-Rousse.
Quoi ?
Plus sérieusement, je veux vous parler de la cervelle de canut. Ce plat typique fait à base de fromage blanc et parfois de fromage de chèvre frêle, tout savamment assaisonné, a une histoire assez récente, même si certains aimeraient le considérer comme l'un des plats favoris de Mazarin. Oui, oui, je cite ma source internet, double point, ouvrez les guillemets. Mazarin affectionnait particulièrement un plat à base de crème, de lait frais et d'une herbe sauvage qu'on soupçonne être de l'ail des ours ou de cerf et de vin blanc. Cette herbe donne de la force aux ruminants et autres bêtes sauvages qui se purgent en permanence. Voilà. Selon la...
Je suis choqué que Mazarin fasse ça, moi. C'est...
Selon la vraie légende cette fois, c'est-à-dire la légende wikipédienne, le nom donné à ce plat n'a rien à voir avec une anthropophagie primaire remontant à l'âge de pierre, n'est-ce pas Marie ? Mais il rappelle la période de la révolte des canuts, c'est-à-dire des ouvriers de la soie de la Croix-Rousse pour les ignares, qui a eu lieu entre 1831 et 1834. Révolte d'ailleurs écrasée par une sanglante répression. Et suite à cela, comme les bourgeois de Lyon avaient une piètre opinion de ces ouvriers de la soie révoltés, ce nom assez insultant, soit dit en passant, a été donné à ce fromage. Mais bon.
Ah oui, c'est vrai que du coup, ça prend une autre tournure.
Eh ouais, ouais,
oui,
ouais.
Enfin, en principe, c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faudrait voir les choses. Ce nom de cervelle de canut est plutôt un hommage au régime alimentaire des canuts, pas assez fortuné pour se payer une cervelle d'agneau, cette fois, à laquelle les susdits bourgeois goûtaient régulièrement, eux.
Mieux, oui.
Voilà. La cervelle de canut faisait donc partie du repas traditionnel que prenaient ces ouvriers à l'aube, avant ou après leur dure journée de travail. Repas qu'on appelle le mâchon, et que j'évoquerai dans ma prochaine chronique.
Ah.
C'est Paul Lacombe, chef du restaurant Léon de Lyon, qui aurait donné ensuite ses lettres de noblesse à ce plat en le créant véritablement en 1934. La cervelle de canut porte aussi le doux nom de claquerée, ce qui vous donne déjà un indice sur la manière de préparer cette mixture. En effet, il faut que le fromage blanc soit bien battu, claqué, pour que la recette soit réussie. Ce qui a donné lieu à diverses recettes plus exotiques les unes que les autres. Je vous en livre deux exemples aujourd'hui. Attention, féministes s'abstenir. La recette, d'abord, d'après l'ouvrage La cuisine lyonnaise de Félix Benoît et Henri Clojouve, paru en 1975, la date a son importance.
D'accord.
Choisir tout d'abord un fromage blanc mâle, c'est-à-dire pas trop mou, que l'on commence à battre comme si c'était sa femme. Quand on l'a bien claqué, il devient claqueré. Et c'est en cet instant suprême que l'on y met du sel, du poivre, des chayottes, des petites herbes et que l'on pique d'ail pour tenir la langue au frais. Ensuite, en outre, le dimanche, on y ajoute de la crème, du vin blanc, un peu d'huile et un filet de vinaigre, en précisant qu'un claqueré réussi ne reproche jamais. Autre recette cette fois.
Eh bien, la Simone, vous nous écoutez. Bonjour.
Ça va réagir sur le site, c'est bien. La cervelle de canut, cette fois-ci, à la mode truchée, que j'ai découverte grâce au site Les Amis de Lyon et de Guignol. Oh, alors, je vous la lis en version originale d'abord.
À la mode truchée, oui.
Prendre un fromage blanc mâle, pas rien, un claqueré. Sinon, il s'abouserait même, main, que quand on y a à boucher la faisselle, il faut qu'il s'y tienne. Puis on l'écrase dans un coupon, hack de sel et de poivre en le battant bien à la fourchette. À chapeau, on rajoute de la ciboule chapeautée fin, d'huile de vin blanc, surtout pas de persil et encore moins de frisée parce que ça grabote le cornulon.
Mais enfin, tu fréquentes quel genre de site, Mario?
Toujours en tournant, mettre des chayottes, une braise d'ail, terminée par une pisserotte de vinaigre. Un conseil, y faire la veille et le lendemain, c'est à se mettre à cacabosco, tant c'est bon. Donc, petit lexique, mâle veut dire égoutter, aboucher, retourner, coupon veut dire saladier. Petites astuces pour finir. La cervelle de canut ne doit pas être trop liquide, on doit pouvoir en faire des quenelles, tiens donc, les revoilà, à l'aide de deux cuillères et servir la cervelle de canut donc sur une assiette
exprès,
avec un assortiment de fromage. Ou encore, la cervelle de canut se sert nature également, avec des petites tranches de pain de campagne grillées ou avec des mouillettes, comme pour les œufs. Elle accompagne également très bien les pommes de terre en robe des champs et on peut aussi l'ajouter à sa salade ou à ses apéritifs pour une touche de fraîcheur toute lyonnaise. Un petit conseil boisson, enfin, pour terminer. Le conseil de Steve Safchuk, sommelier.
En fait, c'est un gros fake, cette chronique. Faut arrêter.
Sommelier, merci Thomas de m'encourager. Sommelier du restaurant parisien au Lyonnais. Cité également par Alain Ducasse sur son site, un double point, ouvrez les guillemets. Ce petit goût de terroir lyonnais à la fois frais et léger se mariera à merveille avec un pouilly fuissé, c'est-à-dire, pour les ignares, un vin blanc du Mâconnais. Tout cela à consommer avec modération, comme mes chroniques, bien sûr.
Les gones, c'est fini, mais si vous en redemandez, malheureux, rendez-vous dans 2 semaines. Merci de nouveau à Myriam et Julie du Refuge. Je suis vraiment heureux de faire quelque chose que je n'ai pas fait depuis 2 ans, à savoir remercier Xavier à la technique, parce que oui, nous enregistrons ce numéro des gones au studio professionnel avec l'aide de NS Media. Un grand merci à Xavier, surtout que c'est un amour, toujours disponible, enthousiaste, toujours prêt à dépanner, à nous aider.
Contre des Kinder.
À ses côtés, Clément, qu'il convient également de remercier, alias Mr. Jingle. Merci à vous. Aussi, surtout, chers auditeurs, n'hésitez pas à envoyer vos réponses à la question de la semaine, qui n'en est pas vraiment une. Citez une œuvre de héros, artiste postmoderne actuellement exposé au MAC de Lyon, et vous gagnerez eh bien, de beaux cadeaux, de même si vous nous envoyez vos photos les plus insolites de Lyon dans le cadre de notre concours photo mensuel. En tous les cas, je vous donne rendez-vous le mercredi 5 novembre pour le numéro 4 des Gones, la bande sera au grand complet et vous pourrez même, en exclusivité mondiale, découvrir la vraie voix de Romain. D'ici là, surtout, n'oubliez pas, dans Lyon, faites des gonneries.